Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.
Voilà, ce Tech & Co, la quotidienne, toujours ici à Barcelone, à l'occasion de ce Mobile World Congress. Nous serons là demain, bien sûr, mais pour terminer cette première émission, en ce lundi soir, on va reparler, évidemment, des télécoms et notamment des satellites avec mon invité, c'est Jean-François Falacher. Bonsoir, Jean-François.
Bonsoir, François.
Alors, Jean-François, vous êtes sur le stand Orange, vous êtes le directeur général de Telsat, mais vous êtes un peu ici à la maison, puisque vous avez travaillé chez Orange et France Télécom pendant 33 ans. Et pas plus tard que l'année dernière, vous étiez le DG France, en fait, d'Orange. C'est ça?
Oui, tout à fait.
Donc, c'était l'un des mercatos des télécoms de l'année 2025. C'est ça, hein?
Oui, donc ça fait chaud au cœur d'être de nouveau là parmi mes... Je les appelle mes collègues, même si c'est mes ex-collègues d'Orange. Donc j'ai revu beaucoup de monde. Et puis j'ai eu la chance chez Orange d'avoir une carrière internationale. J'étais le patron de la France avant de rejoindre Telsat, mais j'ai aussi été le patron de l'Espagne. On est à Barcelone,
bien sûr.
De la Pologne. Donc voilà, beaucoup de collègues d'Orange et d'ex-collègues d'Orange partout. C'est un grand plaisir, voilà.
Et alors, vous avez quitté le terrestre pour aller dans l'espace?
Exactement,
finalement.
Donc voilà, donc l'espace.
Avec Eutelsat, dont vous êtes le directeur, Eutelsat, dont vous êtes le directeur général.
Oui, alors Eutelsat, donc oui. Comme Europe, voilà.
C'est ça.
On est.
Je dis ça parce que demain on recevra le patron d'Intelsat.
D'accord.
C'est rigolo.
Ouais.
Qui n'a rien à voir,
ouais, qui est une société américaine. Donc nous, Eutelsat, on est une société, un opérateur de satellites qui est présent dans les satellites depuis longtemps. Hein. Donc on a un historique fort. Eutelsat, c'est 47 ans d'opération de satellites. Voilà. La télévision par satellite.
Les donc, Canal Plus, etc.
Exactement. Alors, et ça, c'est pour la France, mais on opère encore de la vidéo dans beaucoup de pays d'Europe. Pas que d'Europe, Moyen-Orient, Afrique. Ça reste la moitié du business de Telsat. Donc, on fait 1,2 milliard d'euros de chiffre d'affaires.
Ouais, parce que la télé par satellite, c'est robuste, ça marche bien.
Voilà. Alors, il est vrai qu'en Europe, en Amérique du Nord, c'est quand même un business qui est en déclin. La fibre est de plus en plus présente. Les jeunes générations utilisent plus le mobile pour regarder la télé. Donc ce business est en déclin, mais reste néanmoins très important. Et nous, on a la chance d'avoir un mix qui est plutôt favorable, puisqu'on a aussi beaucoup de clients, comme je disais, en Afrique, au Moyen-Orient. Et là, ça reste un business stable. Alors,
au départ, Eutelsat, c'était une boîte de broadcast. De télébroadcast par satellite,
exactement.
C'est ça?
Exactement. Voilà.
Et donc là, petit à petit, vous pivotez. Alors même si, comme vous le disiez, votre marché de la télé par satellite reste important, mais il faut préparer l'avenir.
Exactement. Alors le pivot, il a commencé au milieu des années 2000, puisque le management à l'époque avait anticipé que ce business de la vidéo serait stable ou à un moment en déclin, et avait commencé à investir dans des satellites géostationnaires pour faire de la connectivité. Donc ça, c'est le milieu des années 2000. On a des satellites, je vais nommer un qui est très connu, qui s'appelle KVHTS, qui est tout neuf, qui permet en fait de donner de l'accès à Internet en utilisant un satellite géostationnaire avec un peu le même dispositif. Hein, la parabole, la petite parabole, à la place d'avoir un décodeur télé, on a juste un routeur modem qui en fait donne accès à Internet. Au passage, à l'époque où j'étais chez Orange France, on a lancé une offre qui s'appelle le satellite Orange,
oui,
en France, qui utilise ce satellite-là. Donc c'est un petit kit, parabole, oui, décodeur, qui permet d'avoir accès à Internet.
Qui permet de désenclaver, en fait,
exactement.
Les personnes qui n'ont pas de 3G, 4G, 5G, pas de fibre,
voilà,
pas d'ADSL, d'avoir malgré tout une connexion Internet.
C'est très rare, mais ça existe encore.
Et ça arrive,
tout cas,
ça arrive.
Vous allez dans une boutique Orange, vous pouvez trouver le satellite Orange qui est avec un satellite KVHTS. Alors, le seul petit sujet, c'est que ces satellites-là, dits géostationnaires, ils sont sur des orbites très élevées, 36 000 km. Pourquoi? Parce qu'à cette orbite-là, les lois de la physique vont que le satellite va à la vitesse de la Terre. Donc quand vous le mettez au-dessus de la France, il reste toujours au-dessus de la France.
Et il a une couverture immense.
Mais qui reste quand même géographique. C'est-à-dire au-dessus de l'Europe, au-dessus du nord de l'Afrique.
Ouais,
voilà.
Ouais.
Et le seul petit sujet, c'est que étant à 36 000 km, vous faites une requête sur Google, par exemple, bah, votre paquet IP, il va vers le satellite, il redescend, il va sur les serveurs Google, Google renvoie sa réponse, ça remonte vers le satellite, ça avance. 4 fois 36 000 km à la vitesse de la lumière, 0,6 secondes.
Ouais, ça fait beaucoup.
Ça fait ce qu'on appelle une latence qui est assez importante.
Ouais.
Ça va très bien pour des usages classiques. Je fais du browsing,
je regarde
des vidéos YouTube, Netflix, parfait. Par contre, les gamers, ça ne marche pas.
Ça, ils oublient.
Voilà. Et puis, pour des usages plus professionnels, par exemple la télécommande de drone. Vous avez un drone avec une caméra et vous le pilotez à distance, ouais. Ça marche pas.
Ben non, parce qu'on a trop de latence.
Il faut de la latence très faible.
Bien sûr. Cette
latence
et la très voix, faible. Ça marche pour la voix, la visio, des choses comme ça.
Ça marche pour la voix, la visio.
Il y a pas trop de décalage.
Non, ça va, c'est acceptable.
C'est pas comme les duplex de BFM. Non, mais c'est vrai qu'on connaît bien. Et c'était ça le truc.
Non, ça
vous avez réglé ce souci.
Ça fonctionne. Mais voilà. Donc, il y a 3 ans, Eutelsat rachète et fusionne avec OneWeb. Donc là, OneWeb, c'est une autre histoire, c'est une constellation. Donc plus un satellite, mais une constellation de 650 satellites, dite LEO. Bon, LEO, c'est un acronyme anglais, Low Earth Orbit, c'est-à-dire orbite basse. C'est des satellites qui volent à 1200 km d'orbite par rapport à 36 000. Hein. Donc là, la latence est très basse, mais à ces orbites-là, ce sont des satellites qui tournent très vite.
Et bien
donc
sûr.
Nous, on a, pour vos téléspectateurs, il faut imaginer, donc, on a 12 plans orbitaux, c'est-à-dire c'est des cercles qui passent par les pôles à 1200 km d'altitude. Sur ça, chaque cercle, vous avez une soixantaine de satellites. Ils font le tour de la planète en moins de 2 heures. Et donc, on en a 12, un peu comme une orange, qui tourne en permanence autour de la planète. Et ce qui fait que quand vous êtes sur Terre, la Terre tourne autour de cette constellation, vous voyez toujours des satellites qui passent. Enfin, vous les voyez
en
pas,
gros,
mais il y a des satellites qui passent en permanence au-dessus
de notre
tête.
En gros, moi, je suis avec mon téléphone, je vais capter un satellite. Quelques minutes après, c'est plus lui que je vais capter, c'est un autre.
Voilà.
Je vais pas m'en rendre compte.
Voilà. Alors, donc, c'est pas avec des téléphones qu'on fait ça, mais c'est avec des antennes plates. Donc, qui font, 70 cm par 40, qui, en fait, elles-mêmes suivent ces satellites et permettent, en fait, de faire du très haut débit.
Donc, il y a un moteur dedans? Comment
non,
ça marche?
Alors, il n'y a pas un moteur. Ce sont ce qu'on appelle en anglais, je suis désolé pour les acronymes, ce sont ce qu'on appelle des phased arrays. C'est des microcellules qui, en les déphasant, font un faisceau.
D'accord.
C'est exactement la même technologie que les radars, François.
Donc, l'antenne ne bouge pas.
Non.
L'antenne c'est
ne
à bouge l'intérieur,
pas.
La technologie qui va suivre les ondes.
Il y a un faisceau qui suit le
incroyable.
Voilà, donc c'est une
technologie. C'est le concept de Starlink aussi.
C'est le même concept. C'est le même concept. Bon, chacun a sa technologie propriétaire. Contrairement au monde des télécoms classiques, on n'est pas interopérable, on n'a pas d'interfonctionnement, mais la technologie est la même. Et ce qui permet finalement de rendre des services de très haut débit, plusieurs centaines de mégabits par seconde, latence faible, donc nous entre 50 et 70 millisecondes.
Et là, ça ouvre tous les usages.
Tous les usages sont possibles.
Pas pour le gamer hyper pointu qui préfère à la fibre.
Toujours.
On est
mais,
d'accord.
Par contre, pour beaucoup d'usages, et vous avez beaucoup d'endroits sur la planète où il n'y a pas de connectivité. Commencer par les océans.
Bien
donc là, on sert des bateaux, des avions, que ce soit des avions privés, publics, des compagnies aériennes, par exemple, et beaucoup d'usages, ou encore vous avez des zones blanches. Alors, en France, on a, comme on le sait, 94%, je suis encore du chiffre, des foyers connectables à la fibre, mais vous avez beaucoup de géographies dans laquelle non. Alors la beauté de ces constellations, François, c'est qu'elles volent au-dessus de l'intégralité de la planète. C'est-à-dire qu'on est capable de fournir des services partout dans le monde.
Alors, même au niveau des pôles.
Bien sûr. Et on a 180 pays. Alors après, il faut des autorisations. On a 180 pays OneWeb, Telsat, dans lesquels on vend de la connectivité. 180 pays dans le monde où on est ouvert et on peut.
Et on arrive à avoir quel débit, en fait, là?
Alors, plusieurs centaines de mégabits par seconde. Ça va de 100 mégabits par seconde jusqu'à 200-300 mégabits par seconde. Alors, en fonction de la taille et de la qualité de l'antenne.
Là. Ok, d'accord. Donc ça, c'est aujourd'hui ce que vous faites.
Exact.
Et un business croissant.
Voilà. Alors, ce business-là, aujourd'hui, représente à peu près 20% du chiffre d'affaires de l'entreprise. Le dernier semestre, on vient de publier nos résultats il y a 15 jours, on a publié 110 millions en un semestre d'euros de chiffre d'affaires en croissance de 60%. Voilà, on va passer la barre des 200 millions dans l'année fiscale qui est la nôtre. Et en forte croissance de 60%. Il y a une demande très très forte. Voilà.
Mais alors, qui s'abonne à OneWeb? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'entend parler que de Starlink. Qui fait une pub incroyable pour tous les particuliers qui sont à la campagne ou à la montagne, etc. Mais peu de OneWeb et de Telsat.
Alors, on a fait le choix, nous, de vendre à des entreprises, à des grandes entreprises, à des gouvernements. C'est comme ça que la constellation a été bâtie, est architecturée. Et on a fait le choix de vendre à travers des distributeurs. C'est-à-dire qu'on ne vend pas nous-mêmes en direct, on vend à travers des distributeurs, soit généralistes, soit spécialisés. Orange, par exemple, est un distributeur, donc Orange, les entités.
Mais pour les entreprises,
B2B,
Orange Business.
Pour les entreprises, voilà.
Moi, alors, je suis François Sorel, j'ai envie d'avoir un abonnement OneWeb. C'est pas possible aujourd'hui.
On vend pas aux particuliers,
d'accord,
en fait. Bon, pourquoi?
Mais pour quelle raison?
Alors, pour quelle raison on vend pas aux particuliers? Parce que la constellation a été faite au départ pour les entreprises avec des caractéristiques entreprises. On sait vendre des VPN, on sait vendre de la garantie de service. Donc voilà, on a ce positionnement qui est un positionnement entreprise. Comme les opérateurs de télécom ont des offres différentes pour les entreprises ou pour les particuliers, bah nous on a ce positionnement entreprise. C'est un choix, c'est un marché qui est important au niveau mondial.
Bien sûr.
C'est un marché qui pèse 2 milliards d'euros actuellement et qui va peser 11 milliards d'euros en 2039 avec une croissance très forte. Donc on veut vraiment rester et se focaliser là-dessus. Et là, on a Starlink en concurrence, effectivement, François. C'est peut-être la raison pour laquelle on est hélas moins connu. Donc merci de me donner l'opportunité de parler de Telsat.web aujourd'hui.
Starlink et bientôt Amazon avec Léo.
Alors Amazon va arriver effectivement, donc c'est en cours. Enfin, on a vu qu'une Ariane a récemment une Ariane 64
avec succès
lancé une grappe d'Amazon. Voilà, donc on les attend de pied ferme. Il y aura une troisième constellation. Le positionnement que nous on va avoir est un positionnement souverain européen puisque nous sommes une entreprise à capitaux européens et indiens. On a le groupe Bharti Airtel qui est aussi à notre capitale. Donc on a, dans le contexte géopolitique actuel, je veux dire, ce vent qui nous aide et qui nous porte dans nos voiles, qui est aussi le fait qu'on soit européen, souverain. On est la seule alternative à Starlink aujourd'hui américain. Bon, ça vous a pas échappé que il y a eu des menaces à une époque de couper le service en Ukraine.
Bien
et
sûr.
Ça, je dois dire que ça nous a quand même aidé, hein, parce que. Ce concept de souveraineté qui peut être un peu théorique,
oui. Mais quand il arrive,
est devenu tout de suite
voilà.
très concret quand
exactement,
il arrive.
Voilà. Exactement.
On a vu ça pendant le Covid. Hein.
Ouais,
souvenez-vous,
ouais,
quand,
Covid,
quand on a eu du mal à trouver des masques, bah, on s'est dit « Ah, ils sont fabriqués où ?» On a commencé à réfléchir.
D'autant que Starlink est représenté par une personnalité, Elon Musk, qui est quand même assez clivante, on va dire.
Moi, j'ai beaucoup de respect. Parce
non, mais
qu'il
génial
a fait
inventeur. Mais
génial
qui
inventeur.
Parfois a des, bon. On va dire, des réactions étonnantes. Donc, on se dit... Finalement, l'importance de la connectivité, on peut peut-être pas, nous, Européens, la confier à Starlink.
Voilà, exact. Et c'est la raison pour laquelle on est là. Nos actionnaires nous ont recapitalisés. Donc, on a racheté 440 satellites qu'on va lancer pour pouvoir justement...
Alors, ça sert à quoi, tous ces satellites en plus ?
Ça sert à assurer la continuité opérationnelle de la constellation parce que, François, ces satellites sont un peu plus petits que des satellites géostationnaires. Un satellite géostationnaire, ça fait la taille d'un autobus hein, renversé. Un satellite OneWeb, c'est comme un gros réfrigérateur. Donc, c'est plus petit, ça a une durée de vie moindre. Ça dure pas 15-20 ans.
Donc, en fait, il faut du spare, quoi.
Il faut du spare. Voilà. Il faut en permanence que cette constellation, elle soit renforcée. Donc, c'est ce qu'on a fait. On a passé un bon de commande important chez Airbus qui construit ces satellites pour nous. On va les lancer à partir de la fin de l'année, en 2027 aussi, en 2028, pour assurer la continuité opérationnelle, le renfort de cette constellation jusqu'en 2030-2031. Moment auquel on ira sur une génération 2, on travaille sur un projet avec l'Europe qui s'appelle Iris Carré, qui vise à bâtir cette génération.
Et qui sera toujours un projet non grand public, d'après ce que j'ai compris.
Ça sera toujours un projet non grand public.
Mais est-ce que c'est pas un problème, ça, finalement ? On se dit, bah tiens, voilà, on parle de souveraineté, on se dit que bah, finalement, si on veut avoir une espèce d'autonomie en termes de connectivité par satellite, c'est bien pour les entreprises, ça serait bien aussi pour... Pour tous les Européens, finalement. Il n'y a pas de stratégie à avoir là-dessus ?
Alors écoutez, la stratégie, elle pourrait être là, mais on a déjà, nous, on vient de lever des fonds très importants. On a levé 1,5 milliard.
Ça nécessiterait des investissements beaucoup plus importants.
Voilà, ça nécessiterait des investissements beaucoup plus importants, c'est la réalité. Voilà. Donc aujourd'hui, nous, on se concentre sur vraiment conserver non seulement cette constellation opérationnelle, mais sur l'avenir. Parce qu'il faut le travailler maintenant, c'est une des particularités du spatial aussi. Il faut préparer assez en amont la génération future, la Gen 2. Donc c'est maintenant en 2026 qu'on la prépare pour 2030. Voilà.
Et c'est quoi la génération 2 finalement ?
La génération 2, c'est des satellites plus puissants, voilà, qui vont être capables pour les clients finaux de délivrer des antennes avec une vitesse plus importante en mégabits par seconde, une latence probablement encore meilleure, et puis des antennes plus diversifiées. On nous demande des antennes plus petites et on nous demande des antennes, bien sûr, comme vous pouvez en douter, moins chères. Donc voilà, c'est ce sur quoi on travaille pour cette génération.
Et ça, Jean-François ?
Alors,
on le voit aujourd'hui, Starlink se lance là-dessus. Bon, il y a d'autres acteurs plus, on va dire, plus modestes, comme Skylo, par exemple, aussi, qui vient de passer un accord avec Orange. Est-ce que demain les services de Telsat arriveront sur le téléphone ou finalement c'est pas votre stratégie ?
Alors, c'est une des premières questions que j'ai arrivé, mon nom d'Orange, première question que j'ai posée aux équipes de Telsat. Où en êtes-vous sur ce qu'on appelle le direct to device? Bon, force est de constater que notre constellation aujourd'hui est faite et bâtie pour donner des services broadband très haut débit avec ses antennes plates. Notre constellation actuelle n'a pas la capacité de gérer du direct to device. D'ailleurs, au passage, parenthèse, chez Starlink, c'est une autre constellation qui est séparée.
Tout à fait.
Hasard complet, c'est aussi une constellation de 650 satellites. Mais bon, on a des projets dans nos cartons aujourd'hui, François. On a des discussions. Il faudrait vraiment qu'on lève beaucoup d'argent là aussi. Donc je ne dis pas.
C'est votre job aussi.
Bien sûr que c'est
de
notre
convaincre
job
de nouveaux investisseurs.
Voilà, je ne dis pas qu'on va pas le faire, mais aujourd'hui vraiment, on se focalise sur notre core business. Il y a un marché très important. On a une concurrence, vous le voyez, qui est quand même très très importante.
Et bien sûr,
des géants face à nous.
Et puis des capitaux carrément.
Et des capitaux
quasiment illimités en plus.
Donc on a décidé pour l'instant de faire le choix de se concentrer sur ce qu'on fait déjà, ce qu'on sait faire, et pour avoir une constellation européenne
dans
le futur.
Mais est-ce que c'est pas la souveraineté et le contexte géopolitique qui va peut-être vous donner des ailes, malheureusement?
Heureusement.
Je dirais malheureusement dans le contexte.
Ouais, non, bien sûr.
Dans le contexte mondial, mais c'est vrai que.
Et c'est vrai
vous,
que les événements des derniers jours ne font qu'amplifier ce phénomène-là.
Bien sûr.
Et nous donner finalement plus de vent dans nos voiles.
Passionnant tout ça.
Absolument passionnant.
Alors vous êtes ici pour essayer quoi de trouver de nouveaux clients de...
Alors ici, on a beaucoup de partenaires, parce que comme je le disais tout à l'heure, on a deux types de partenaires. On a des partenaires spécialisés qui nous aident à vendre nos services dans des domaines particuliers comme le maritime. On va avoir des sociétés comme Marlink, Speedpass, pour en sauter quelques-unes, qui sont des spécialistes d'installation de systèmes sur les bateaux. On a des partenaires spécialisés pour les compagnies aériennes qui vont nous aider à installer des antennes. Et puis on a des partenaires plus généralistes. Les grands opérateurs sont des partenaires. Orange en est un. Telstra, par exemple, avec qui j'étais ce matin en Australie, en est un.
Mais alors, ils se servent de vous comment? C'est-à-dire que, par exemple, ils ont un endroit où ils n'ont pas de fibre, ils n'ont pas de 5G, etc. Ils se connectent à votre satellite pour proposer une couverture 4G, 5G, c'est ça?
Alors, ces partenaires, déjà, il faut bien comprendre qu'on a un backbone mondial fibre, parce que nos satellites, là, les antennes dont on parlait tout à l'heure, clients, il faut que le satellite soit raccordé au réseau
au meilleur réseau possible.
Donc on a 41 champs d'antennes sur la planète. C'est des champs de 8 à 12 antennes qui permettent de d'avoir ces satellites qui parlent avec notre backbone mondial. Ces opérateurs-là, ces partenaires sont interconnectés avec des équipements télécom chez nous. Et eux, ils peuvent rendre des services de VPN. Alors, les clients finaux, c'est des grandes entreprises.
Oui.
Beaucoup de gens qui cherchent du backup, par exemple, eux-mêmes pour leur station mobile. Telstra, par exemple, en Australie, vous avez beaucoup d'endroits où il n'y a pas de télécom qui utilisent nos antennes pour connecter les BTS mobiles, par exemple. Mais aussi pour les clients B2B, pour les gouvernements, beaucoup d'appétit aussi des armées actuellement.
Bien sûr.
Vous avez vu qu'on a signé un contrat très important avec le ministère de la Défense, ou pas, €1 milliard sur 10 ans, parce que, et ça c'est terrible, hein, mais le conflit ukrainien montre qu'en fait l'usage par les militaires d'outils civils est réel, et donc il y a aussi un changement de, entre guillemets, de doctrine d'un certain nombre de ministères de la Défense qui regardent de très près des outils commerciaux à des usages militaires, pour des usages militaires, parce que en fait c'est moins cher, voilà. Et ça donne des services, ça rend des services, et vous savez que les communications sur le champ de bataille, c'est absolument critique, voilà, sur
évidemment.
Donc voilà, beaucoup d'appétit, et on passe aussi par ces opérateurs là pour revendre nos services.
Merci beaucoup Jean-François Falachère.
Merci beaucoup.
Voilà, maintenant on est vraiment up to date concernant Eutelsat grâce à vous. Bon vent chez Eutelsat.
Merci beaucoup.